25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet brûlant d'actualité qui concerne les propriétaires et le bâtiment et la rénovation énergétique. C'est la chasse au logement énergivore suite au vote à l'Assemblée nationale d'un certain nombre de dispositions interdisant ce que l'on appelle parfois improprement des passoires thermiques. Alors les propriétaires sont-ils dans le viseur et quels sont ces propriétaires? C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui avec nos invités.
« 25 millions de propriétaires, l'expertise ».
Alors les propriétaires sont inquiets du contexte dans lequel il est demandé de faire des efforts considérables quant à la qualité énergétique de leur logement. Une sorte de jeu de bonneteau s'est installé avec la réforme du DPE pour ceux qui entreront ou qui sortiront des classes énergétiques F et G et bientôt E. Enfin, cela reste à définir. Et tout cela plonge les propriétaires dans une certaine incertitude. La question d'atteindre la classe énergétique D est symboliquement assez décourageante pour ceux qui n'ont pas encore les moyens, les capacités et l'accompagnement suffisant pour atteindre de telles performances énergétiques. Et c'est pourtant ce que les députés ont décidé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Les premiers pénalisés risquent d'être les propriétaires ruraux qui se chauffent au fioul en maison individuelle. Et ils sont loin d'être les seuls. Les propriétaires bailleurs voient aussi de plus en plus de contraintes s'empiler. L'encadrement des loyers, le permis de louer, l'obligation de rénovation évidemment et la modification de règlements sanitaires départementaux qui est en marche, la prolongation de la trêve hivernale, le creusement des inégalités des rapports locatifs, les multiplications des faits de squat, etc. La fiscalité, par ailleurs, générale de l'immobilier est très forte, concernant la CSG qui est à 17,2 sur les loyers, l'IFI qui rattrape à lui seul les recettes de l'ancienne ISF, l'explosion des impôts fonciers passés, mais qui risque d'arriver avec la réforme des valeurs locatives et la suppression de la taxe d'habitation. Pourtant, les taxes foncières ont bien été prélevées en octobre de l'année dernière. Elles représentent, je le rappelle, 2,3 mois de loyer en moyenne et peut aller jusqu'à 4 mois dans certaines communes comme Grenoble. Alors, l'objectif sur la rénovation énergétique est très ambitieux. Il y a de forts objectifs, très ambitieux, mais qui comportent un certain nombre de freins. D'abord techniques, tous les immeubles ne peuvent pas atteindre une classe énergétique escomptée comme D à minima d'ici 2034. Ensuite, évidemment, financier. Le retour sur investissement est hypothétique et la valeur verte des logements est largement déficitaire. La trésorerie de nombreux propriétaires est exsangue et les aides sont rigoureusement faibles pour un certain nombre d'entre eux. Et enfin, dernier frein, il est juridique. Comment expliquer à un bailleur ou un propriétaire occupant qui ne peut remplir ses obligations, ses devoirs, si la copropriété refusait elle-même les travaux permettant une rénovation énergétique nécessaire? Le juge va-t-il baisser arbitrairement les loyers pour les bailleurs? Est-ce une nouvelle source de contentieux qui va éclater? Et par ailleurs, est-ce que les propriétaires occupants vont être pénalisés au moment d'une mutation, de la vente ou de la transmission d'un bien qui n'en rentrerait pas dans les clous? Nous traiterons aujourd'hui de la réforme du diagnostic de performance énergétique qui devrait sortir les classes F et G. 800 000 logements, une bascule de 800 000 logements est prévue, est anticipée, mais ces chiffres sont à relativiser. Est-ce que les logements classés vierges et les projections qui sont faites sont-elles réelles ou réalistes? Et puis, tous ceux qui n'ont pas encore eu de diagnostic DPE, puisque la dernière mutation date, et ce n'est peut-être pas en location, la dernière mutation date d'avant la mise en place du premier DPE. Enfin, il faut cesser de croire que tous les logements F et G sont des taudis. Ce sont peut-être vos logements, les logements actuels dans lesquels vous êtes, et vous ne savez pas que vous êtes encore dans le collimateur. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'accompagnement des propriétaires est à la hauteur de l'ambition du gouvernement? L'offre locative s'en remettra-t-elle en l'état? Alors j'accueille aujourd'hui quatre invités qui représentent un certain nombre d'acteurs dans le monde de l'immobilier. D'abord Christophe Demerson, président de l'UNPI. Il y a aussi avec nous, qui fait le grand honneur d'être là, Philippe Pelletier, le président du plan bâtiment durable. Benoît Fauchard, qui représente la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Michel Pellin, qui est le directeur général de Solia. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer peut-être en donnant la parole à celui qui représente les propriétaires, puisque c'est quand même eux qui sont les principaux concernés, les principaux financeurs de ces obligations qui vont leur incomber. D'abord, est-ce que, Christophe de Merson, les aides et l'ambition du gouvernement sont-elles en adéquation? Est-ce que la balance est là entre les obligations et l'accompagnement, au-delà des aides financières, des propriétaires pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la loi?
Bonjour Pierre Otus, bonjour à tous. C'est vrai qu'on ne peut être que surpris par l'empilement des obligations et on était vraiment dans le jeu avec le gouvernement, mais là aujourd'hui le compte n'y est plus. Vous l'avez rappelé dans votre présentation, quand on est parti sur le F et le G à éradiquer, c'était déjà une formidable ambition. On a mis tout ce qu'on savait, tout notre savoir-faire, toute notre expertise pour essayer de réaliser et d'atteindre des objectifs ambitieux. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle annonce du gouvernement qui nous parle de E pour 2034. Et ça, je pense que c'est irréalisable et improductif, puisque ça ne peut que décourager les propriétaires. On l'a tous suivi, puisqu'on a eu des retours immédiatement à la Fédération. Et ça, je pense que c'est un mauvais signal et je me suis permis de le rappeler il y a encore quelques jours à la ministre Emmanuelle Wargon et je l'ai également rappelé à son cabinet parce que l'empilement est là, les mesures contre les propriétaires, les mesures anti-propriétaires ont été empilées et c'est vrai que les propriétaires, ils auraient besoin d'un signal fort, d'un symbole fort pour faire voir qu'on peut être avec eux. Je prendrai un seul exemple aujourd'hui, vous prenez MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, au mois d'avril, on est encore capable, en tant que propriétaire, de déposer son dossier. Et tout ça, eh ben, ce n'est pas admissible. On perd du temps et le calendrier est là, le calendrier est court.
Alors, Benoît Fauchard, est-ce que vous représentez la FNAM, donc les gestionnaires de biens, les agents immobiliers? Est-ce que du côté des professionnels de l'immobilier, vous sentez la même inquiétude qui monte chez les propriétaires et qui a été relevée par l'UNPI notamment? Alors, je cite simplement la dernière enquête qui a été faite. Nous avons 15% des gens qui ont répondu qui sont très inquiets sur les mesures prises et l'interdiction de mise en location des logements classés F et G, et 34% qui sont inquiets. Donc très inquiets plus inquiets, ça fait 50. Alors c'est une photographie évidemment intentée, mais ça montre bien l'état d'esprit dans lequel sont vos clients, les propriétaires, aujourd'hui vis-à-vis de ces mesures.
Oui, alors bien sûr, on est toujours inquiet quand il y a des nouvelles mesures. Bon, vous l'avez rappelé, le logement énergivore F et G, bon, surtout les lettres G, il faut dire qu'on en a très peu en gestion directe. Et donc, moi-même, sur mes 500 logements, j'ai aucune gestion en lettre G. Et l'inquiétude vient de tous les changements. C'est vrai que le nouveau DPE, on l'attend avec, satisfaction et inquiétude à la fois. Vous avez parlé du basculement de 800 000 logements qui passeraient en FG. Et en fait, on n'en sait rien et on ne sait pas trop. C'est vrai qu'on a plein de DPE vierges, on a aussi des DPE sur facture. Et cela étant notamment interdit, c'est vrai que ça va changer et basculer quelques logements. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas. On a informé tous nos propriétaires, mais c'est vrai que les aides sont là, en tout cas pour les lettres G, on comprend aisément. Moi, ce qui me fait peur, c'est bon, bien sûr. On ne va pas parler du rajout de la lettre E, parce que je pense que c'est très ambitieux, c'est facile de l'écrire, mais c'est plus difficile à faire. Je sens jeu de mots. Ce que j'ai peur, moi, c'est qu'on rajoute beaucoup d'obligations aux propriétaires. Moi, c'est le marché locatif qui va diminuer. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on fabrique un petit peu quelque chose d'antinomique. C'est de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'à force de réclamer les choses et d'aller trop vite, eh bien, finalement, on dit au propriétaire, détruisez votre maison ou vendez-la parce qu'elle ne peut plus être louée ou elle n'est plus valable. On parle de poubelle. C'est vrai que vous l'avez souligné dans votre édito. Moi, je parle de logement énergivore comme la loi, parce que les gens ne vivent pas dans des poubelles. Et parfois, ils sont heureux d'être dans un logement, même s'il est classé G. Alors, on est d'accord avec, au niveau de notre fédération, on travaille évidemment pour accompagner propriétaires, bailleurs. Mais c'est vrai que la pérennité des aides et le renforcement des aides, il faut absolument qu'ils s'améliorent et si on met des obligations supplémentaires, il faut des aides supplémentaires. et sur le long terme. Et ça, on n'est pas sûr. 2034, c'est bien, mais c'est loin. Et c'est loin, mais c'est tout proche pour ceux qui vont faire des travaux.
Alors, Philippe Pelletier, justement, sur la destruction de l'offre locative au plan bâtiment durable, qui est un groupe de réflexion pluridisciplinaire, pluriel, si je puis dire, où on apporte beaucoup de solutions quand il y a des problèmes. Est-ce que, au plan BAT, vous avez pu mesurer peut-être l'impact de ces mesures et sur l'éventuelle destruction de l'offre locative et de l'offre tout court de logements qui existent en France aujourd'hui?
Bon, je vais répondre à cette question en commençant par essayer de donner une tonalité différente à ce que, au début de cet échange, je viens d'entendre. Je pense que le rôle que nous avons lorsque nous sommes des responsables de fédérations, d'organisations collectives, c'est de conduire dans la durée et avec maîtrise l'ensemble de nos adhérents vers des évolutions qui sont au cas présent non seulement souhaitables mais nécessaires. Je crois que nous nous accordons tous sur l'idée qui est qu'il est maintenant grand temps de faire que l'industrie immobilière dans toutes ses composantes se professionnalise davantage et mette en place des services offerts à ses clients, les locataires ou les acquéreurs, qui correspondent à ce qu'on attend aujourd'hui. Benoît Fauchard donnait tout à l'heure une illustration fort intéressante. Il n'a pas en mandat locatif des logements très énergivores parce que il sait que si il devait en accepter en mise en location, il mettrait beaucoup de temps à trouver des locataires qui seraient instables dans un logement trop énergivore. Donc on a tous ensemble, et nous le partageons, je pense, sans nuance, le même objectif qui est faire en sorte que le parc immobilier se renouvelle dans le sens de la maîtrise de l'énergie qu'il assure et des émissions de gaz à effet de serre qu'il doit impérativement cantonner si on veut que la vie sur notre planète demeure vivable. Une fois qu'on a dit ça, il est clair qu'il faut bien commencer par un bout à agir sur le parc immobilier et on a commencé à le faire tous ensemble d'ailleurs et le Solia a été particulièrement important dans ce cadre-là en décidant que le premier objectif c'était d'aider les gens très modestes qui vivaient dans des logements trop énergivores pour pouvoir se chauffer correctement. Et là, ça a été pendant des années la cible essentielle de notre action. Aujourd'hui, nous bougeons la maille en pensant que le parc locatif, dans son ensemble, social pour 5 millions de logements, privé pour 7 millions de logements, mérite d'être traité par priorité. Le parc locatif social a fait un grand pas en engageant des rénovations globales énergétiques d'ampleur et le parc privé maintenant, c'est son tour de faire en sorte que les locataires trouvent des logements confortables et le propriétaire y trouvera son compte. Alors, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est pas se lamenter, c'est pas dire qu'on a peur, c'est viser exactement quelles sont les aides et les accompagnements dont les bailleurs ont besoin pour arriver en quelques années à transformer ce parc. Et moi, je vous dis, pour être une sorte d'interface entre les pouvoirs publics et la société, que les pouvoirs publics sauront entendre les demandes que l'on fait dès lors qu'on est clair, qu'on dit que le sujet est à notre portée, dès lors qu'il est bien accompagné et aidé. C'est dans ce sens-là qu'il faut que l'on canalise nos énergies.
Alors justement, Philippe Pelletier, je rebondis. Est-ce que, en regard de ces obligations qui sont portées maintenant par l'Assemblée nationale et bientôt le Sénat, par le parlementaire et le gouvernement évidemment, est-ce que les aides sont suffisantes, les aides et les accompagnements, ou en tout cas l'accès à un environnement permettant largement à ces bailleurs qui sont des investisseurs, qu'il faut traiter comme des acteurs économiques, à mon avis, est-ce que on a créé un environnement qui leur permet de répondre justement à ces obligations qui, je crois, on les partage tous, peut-être après sur la question de la lettre E, qui est un objectif supplémentaire qui est arrivé dans un deuxième temps. En tout cas, sur F et G, quel que soit le thermomètre qu'on utilise, je crois qu'il y a un consensus dessus. Après, ce sont les modalités d'arriver à cet objectif qui pose peut-être
alors,
problème.
Je réponds plus rapidement que ma première intervention ne l'a été. On a deux sujets, on a celui de l'accompagnement et on a celui de l'aide. L'accompagnement, c'est ne pas laisser les bailleurs tout seuls, et on sait qu'il y a un vrai besoin de la part de tous les ménages, de la part de la plupart des acteurs maîtres d'ouvrage pour être accompagnés dans le parcours. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur la place aujourd'hui. Les chambres de propriétaires jouent cet office à l'égard de leurs adhérents. Solia joue cet office à l'égard des bailleurs qui logent des personnes modestes sur le territoire. Et les administrateurs d'immeubles jouent ce rôle, évidemment, au profit de leurs mandants. Donc, le gouvernement et le Parlement viennent de décider d'ajouter une couche supplémentaire d'accompagnateurs qui serait proposée à ceux qui le souhaitent. Il y a une base aujourd'hui qui se consolide à grande vitesse, qu'on appelle les conseillers FER, pour informer, conseiller et accompagner les ménages. Il me semble que de ce côté-là, le compte est bon. Du côté des aides, en revanche, l'accès à MaPrimeRénov constitue un premier pas, et l'UNPI a été, à mon sens, tout à fait décisive pour obtenir du gouvernement que cette aide soit ouverte aux bailleurs, et c'est une très bonne chose. Je pense que cette aide-là ne suffit pas, et qu'il faut, ensemble, nous déterminions exactement l'accompagnement qui est nécessaire. Est-ce que c'est un amortissement accéléré? Est-ce que c'est une déduction spéciale? Que sais-je? Mais il faut qu'on arrive à permettre aux bailleurs, sur une courte durée, de comprendre que c'est le moment de passer à l'action. Et puis il y a une dernière difficulté que, Pierre, vous avez évoquée dans votre édito, qui est le bailleur qui se trouve copropriétaire et qui n'a pas la maîtrise de la décision. Eh bien, il me semble que les règles qui ont été ajustées dans la copropriété vont permettre de décider plus facilement. Et là où hier on observait que les copropriétaires bailleurs étaient plutôt ceux qui freinaient les travaux, on peut penser qu'un renversement va se produire et qu'ils seront ceux qui pousseront la roue, parce qu'ils ont le besoin de continuer à louer. Et nous tous, nous avons besoin que le parc locatif privé continue à grossir, parce qu'il est nécessaire au logement des Français.
Alors, je souhaiterais faire agir du coup Michel Pelenc. Vis-à-vis des obligations, je vous pose un peu la même question, entre les obligations et les aides, les accompagnements qu'il y a, et l'environnement, j'insiste, sur cet environnement général d'investissement, est-ce que le compte y est, au moins pour les mesures initialement prévues sur F et G, sans parler forcément de la classe énergétique E, dont tout le monde rêve évidemment, mais qui semble plus difficilement atteignable, en tout cas en l'état?
Moi, il me semble, si vous voulez, qu'il faut bien poser le problème. D'abord, l'offre locative privée est indispensable. On a parlé souvent de rôle social de fait, mais pas que. Et c'est vrai qu'on a un parc de 6 millions au niveau privé, 6 millions, 5 millions au niveau des SEM et des HLM. Donc on voit bien que c'est quelque chose de considérable. Si on regarde maintenant l'état de ce parc, aujourd'hui, il y a une étude de 2013 là, qui a été actualisée, hein, c'est l'étude Phébus. on a 4,8 millions de passoires thermiques ou logements énergivores, c'est vrai que c'est un petit peu mieux, un peu plus élégant, dont 1,7 million qui sont en parc locatif privé. 1,2 million sont dans des appartements, des copros, donc on en a déjà parlé, et c'est vrai que là, l'accès vertueux vers du B est évidemment un petit peu plus compliqué compte tenu de la décision collective. Et dans les 1,7 million logements énergivores possédés par des propriétaires bailleurs, il y a 880 000 propriétaires bailleurs qui sont dans les 4 premiers déciles, donc des gens qui ont des revenus quand même assez limités. Donc on en est là, et l'idée évidemment de Solia, c'est d'accompagner ces propriétaires bailleurs à travers des diagnostics, à travers des préconisations de travaux, à travers le montage des plans de financement, pour aller vers des conditions d'habitat des locataires qui soient meilleures et avec une maîtrise des charges. Alors ce qu'on observe une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé l'importance du problème, c'est simplement, et ce qu'on avait dénoncé d'ailleurs avec l'UNPI dans un topo pour le plan bâtiment, c'est que jusqu'à présent, le parc locatif privé restait l'angle mort des politiques publiques de la rénovation énergétique. Je rappelle que le plan Hulot, par exemple, visait uniquement les propriétaires occupants. Si je regarde la mission Sichel, qui a rendu son rapport il n'y a pas longtemps, c'est la même chose. L'angle d'attaque au départ, c'est les propriétaires occupants et pas les propriétaires bailleurs. D'ailleurs, De Normandie parlait de trous dans la raquette. Donc tout le monde est bien conscient qu'il y a un trou dans la raquette. Alors je suis d'accord avec ce que disait Philippe Pelletier tout à l'heure. Il y a un début avec MPR, mais je rappelle que MPR est accessible aux propriétaires bailleurs qu'à partir du 1er juillet de cette année. Normalement, ça prenait fin 2022 puisque c'est lié au plan de relance. Ça devrait être pérennisé, mais c'est quand même assez insuffisant. Donc là, il y a un vrai souci, et entre le problème à traiter et ce qui est proposé, il y a quand même un gap qui est compliqué. Je comprends que les propriétaires bailleurs puissent être en difficulté par rapport à ça. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut revoir la boîte à outils existante. Tout à l'heure, on a parlé du rôle de l'ANA. Ben, sans doute, il faut réamplifier le rôle de l'ANA. Il y a peut-être aussi réviser le déficit foncier, qui est un outil dont les propriétaires bailleurs à haut revenu sont friands et qui n'a pas été revisité depuis quand même 40 ans. Il y a toute une série de choses vraiment à revoir. Je pense le préaccès mutation devrait être également peut-être utilisé. Il y a les éco-PTZ à mieux distribuer. Il y a toute une série de choses, et je trouve qu'il faut avoir une politique aussi ciblée sur les différents types de propriétaires bailleurs. Donc il y a vraiment une ingénierie financière, il y a du marketing à faire, et il y a une insuffisance vraiment en outils pour faire la passerelle entre le problème et le résultat qu'on veut atteindre et qui est louable. Aller vers une planète décarbonée, c'est très bien.
Justement, Christophe Demerson, on parlait de MaPrimeRénov' avec Michel Pelinque à l'instant. Effectivement, ce dispositif qui est décalé dans le temps, alors on souhaite qu'il se pérennise et qu'il s'améliore, évidemment, c'est un premier crantage. C'est une réponse, je crois, qui était une demande de l'UNPI ancienne, déjà lorsque c'était un crédit d'impôt, avant que ce soit transformé en prime. Est-ce que les propriétaires sont en attente de cette prime Rénov'? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un frein lié à la fiscalisation de ces aides qui ne concerne pas les propriétaires occupants? C'est ça la grande distinction et qui peut-être casse un peu l'effet décuplant, catalyseur de la volonté d'engager des travaux et d'aller chercher ces aides, justement, avec la fiscalité qui pèse sur l'ensemble des aides que touchent les bailleurs.
Alors, vous avez raison de souligner ce problème. On en parlait hier avec les services de Madame la ministre du Logement. Moi, ce que je regarde quand même, c'est le calendrier et le paysage où on s'inscrit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devant une vacance locative subie, je dis bien une vacance locative subie qui explose, puisque la pandémie est là, les locataires s'en vont, les locataires rejoignent leur famille, il y a beaucoup d'appartements vides. On a lancé une enquête à l'UNPI et on a une augmentation de 30% de la vacance locative subie. Parallèlement à ça, il faut quand même rappeler, Michel Pelin qui en parlait, MaPrimeRénov', c'est bien, mais c'est 1er juillet. Nous, dans les chambres, partout en France, on voit des propriétaires qui ont fait des simulations, déjà qui se sont cassés les dents parce que c'est pas évident, c'est tout numérique. Ils ont eu beaucoup de mal déjà à s'intégrer dans le système. Et après, on voit que les dossiers peuvent être posés que le 1er juillet. Vous savez, comme moi, que le 1er juillet, quand vous connaissez ce qui se passe dans le monde du bâtiment, le 1er juillet, les artisans, ils sont plus prêts à terminer les chantiers qu'ils ont déjà commencés. Et à recevoir leur facture et ce qui leur est dû, et puis à partir en vacances au mois d'août. Donc tout ça veut nous dire qu'on va se retrouver au mois de septembre. parce que je rappelle quand même qu'il y a quand même de l'inquiétude chez les propriétaires et chez les bailleurs, mais cette inquiétude, elle est légitime. Je rappelle quand même que la plaquette de ma prime rénov', la plaquette de présentation de ma prime rénov', ne correspond pas à ce qui est réellement octroyé par cette prime rénov'. Donc rien que là, déjà, on ne peut pas reprocher aux propriétaires bailleurs d'être inquiets et d'être dans l'expectative. Donc le calendrier, il est là, il nous inquiète. Je rappellerai quand même, tout à l'heure, j'ai quitté Philippe, mon ami Philippe Pelletier, qui parlait de ça, il disait un distinguo entre ce qui avait été fait, les efforts qui avaient été faits dans le parc public et dans le parc privé. J'entends bien que le parc public a fait de gros efforts sur la rénovation thermique, mais je rappellerai quand même, humblement, que le parc privé n'est pas soumis tout à fait à la même stabilité fiscale que le parc public, puisque quand on est exonéré pendant 30 ans d'impôts fonciers, quand on ne paye pas 17,2% de CSG pour les loyers, quand on paye une petite TVA, ça laisse quand même des marges pour pouvoir investir. Il faut rappeler que nous, les propriétaires, aujourd'hui, on est pris pour quoi, les propriétaires? On est pris pour des pétroliers, et ça, ce n'est pas possible. On peut être responsable, on peut être des citoyens engagés, mais après, l'argent magique, ça n'existe pas. Je parlais hier avec les services du ministère, on discutait sur le coût d'une rénovation. Et là, j'avoue quand même que je suis tombé, et je pèse mes mots, je suis tombé de ma chaise quand j'écoutais parler d'un coût moyen de 15 000 euros sur le territoire. Eh bien, il faudra savoir comment on peut faire des rénovations à 15 000 euros en coût moyen. Je rappellerai également en parallèle que on assiste aujourd'hui, et tout le monde le sait, à une explosion du prix des matériaux. Vous savez que l'acier vient de prendre 50%, mais à côté de ça, le polystyrène a pris, l'école, les produits expansés, tout ce qui sert à l'isolation, sans parler des fournitures qui ne sont pas là, puisqu'il y a des ruptures, mais en admettant encore qu'il y ait plus que ce problème de soit réglé, il reste quand même qu'on est devant une explosion des prix. Et le nombre d'appartements et de maisons qui sera à rénover, ça ne passera pas, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi je dis, on est responsable, on est engagé, nous on joue le jeu, nous, c'est ce que je rappelais à Mme la ministre, nous on joue le jeu de la rénovation. Moi ça fait 2 ans que dans toutes les assemblées générales en France, partout j'encourage les gens à rénover, les propriétaires à travailler dans le bon sens, dans le sens de la rénovation. Bien sûr que les locataires doivent être bien logés, bien sûr qu'il doit y avoir de l'isolation, mais pour moi, cette annonce sur le E, je ne vois pas comment on pourra régler ça. Pour moi, c'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut mettre le parc, ces millions de logements, en adéquation. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas raconter de mensonges aux Français. Et pour moi, ce n'est pas réalisable et ce n'est pas responsable de dire que c'est réalisable et de faire croire et de courir après une carotte hypothétique, de faire croire aux propriétaires qu'on pourra atteindre ce chiffre, que tout le monde soit en lettre D en 2034. Cette dernière proposition pour moi, même avec les aides, même avec tout ce qu'on veut, je ne vois pas comment on peut l'atteindre avec la meilleure volonté du monde. Et je pense aujourd'hui, je pense que cette annonce est déjà prématurée et improductive.
Alors, justement, Benoît Fauchard, comment réagissent les clients qui sont dans le parc plus intermédié? Alors, l'UNPI représente aussi bien les gens qui sont non intermédiés qu'intermédiés, mais vous les avez davantage peut-être en contact physique ou au téléphone ces derniers jours, en tout cas sur une population plus ciblée. Certains nous disent qu'ils vont vendre le logement, laisser le logement vide ou attendre la dernière minute pour faire les travaux. D'autres nous disent qu'ils ne sont pas concernés, mais avec l'effet de la réforme du DPE, peut-être qu'ils le seront demain. Est-ce que vous avez des clients qui viennent vous voir un peu inquiets en se disant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que mon DPE d'ailleurs sera toujours valable? Peut-être ce genre de questions un peu techniques, mais en vous disant si vraiment j'ai plus le droit de louer, eh bien je sortirai le logement, je le laisserai vide, ou alors je vais tout simplement le vendre et on ne sait pas quel destin aura le logement en question, notamment en zone très détendue.
Oui, alors c'est vrai que je voulais juste revenir sur ce que disait Philippe tout à l'heure. On a une tonalité positive, hein, parce qu'on travaille tous dans le même sens pour évidemment que les gens soient bien dans leur logement, et les bailleurs sont aussi concernés que les conseillers syndicaux dans les propriétés. Ce qui nous importe, c'est de mettre tous les outils, je dirais, à niveau pour sécuriser toute la chaîne de l'immobilier et notamment les bailleurs. Alors, les bailleurs, pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans une période aussi un peu compliquée. Je vous rappelle qu'il y a un virus qui traîne et que, par exemple, pour la copropriété, on ne fait pas d'assemblée générale, sauf à distance. même avec les conseils syndicaux, et ça fait plus d'un an que ça dure. Donc, sur les deux années, là, 2020 et 2021, et on ne voit pas beaucoup nos propriétaires et je dirais nos copropriétaires. Donc, on les a par téléphone, etc. Donc, ça, c'est un peu plus dur, de les rassurer et puis d'engager les travaux, même si, on le sait bien, les syndics, les administrateurs de biens se forment et ont besoin de se former. Et on a lancé des programmes avec CoProvert, etc., avec les ZDC2E d'ailleurs. Et on forme parce qu'on est des professionnels engagés et responsables. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ce qui nous inquiète, c'est vrai que ce n'est pas qu'une inquiétude, mais c'est un avantage. L'avantage fiscal a été très peu étudié, à notre avis. Et on est d'accord avec l'UNPI par rapport au relèvement du déficit foncier. Évidemment, de la défiscalisation des primes qui se surajoutent aux revenus. Donc, je trouve que c'est dommage. Et là aussi, on est d'accord avec l'UNPI. Et donc, je pense qu'il y a un petit travail à faire. Il y a une grosse inquiétude aussi par rapport aux taxes foncières, puisque les gens qui rénovent leur logement, ils ont peur d'être surfiscalisés au niveau de la taxe foncière. Donc, ça, c'est pas une bonne idée pour les bailleurs. Alors, j'ai pas la solution comme ça en main, hein, évidemment. Je sais que c'est difficile et puis que ça concerne Bercy et beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est toutes ces inquiétudes-là, on a besoin de rassurer et d'équilibrer les choses. Notre objectif, c'est quand même qu'on garde un marché locatif privé. Michel Pelinck l'a dit, il est important et donc il faut garder cet équilibre. Ou alors on va vers plus de… Enfin, moi, je suis d'accord avec le logement social, mais est-ce qu'il faut éliminer le logement privé, quoi ? On se demande un petit peu… parce que c'est vrai que, suite à ta question, Pierre, c'est qu'on va arriver à des arbitrages avec les bailleurs qui vont faire l'étude entre une vente et un réinvestissement vers du neuf, pourquoi pas, ou une vente et puis par rapport à des travaux et une étude de la fiscalité. Donc, ce qui est, on a proposé, nous, au niveau de la FNIM, de prévoir une éligibilité aux deux Normandies, dans l'ancien, sur tout le territoire, ça nous semblerait intéressant pour garder un marché locatif, primaire en tout cas, et avec une possibilité de rénovation et que des biens restent dans le marché locatif. Et donc avec des obligations, évidemment, comme idée de règle, quand on a des aides, il y a des obligations par rapport à des règles de marché. Et, vous voyez, ça c'est pas un problème. Mais je pense qu'il faut vraiment équilibrer et rechercher un équilibre pour avoir un marché locatif fort privé.
Alors justement,
la remarque
oui, Christophe Demerson.
Charles, le secrétaire général de la FNIM est intéressante et j'y souscris. Quand il parle qu'il y a également une inquiétude par rapport à la taxe foncière, rappelons quand même que sur la taxe foncière, rappelons un seul chiffre. Sur 10 ans, l'augmentation de la taxe foncière en moyenne en France, c'est 34,2%. C'est sans rapport avec l'inflation et c'est sans rapport avec les loyers. C'est 4 fois l'inflation et 3 fois les loyers. Donc là, les propriétaires, ils sont devant cette équation. Mais rappelons aussi, et on l'a vu il y a deux ans avec les services des impôts de l'ISER, puisque je rappelle quand même qu'on avait fait un focus sur l'ISER à l'UNPI et que tous les propriétaires qui avaient fait des travaux importants se sont vus ont vu une taxe foncière exploser. Je rappellerai aussi qu'il y a une inquiétude par rapport à la taxe foncière, puisque vous le savez, avec la suppression des taxes d'habitation, il y a un manque de recettes dans les collectivités. Tout le monde en est conscient et tout le monde met un petit peu son mouchoir sur la table pour faire semblant de savoir ce qui se passe. Mais en réalité, on voit bien que tout le monde se tourne déjà vers les propriétaires pour essayer de trouver des recettes supplémentaires. Et Pierrotus, vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, c'est entre 2,3 ou 2,4 et 4 mois de loyer déjà, rien que sur la taxe foncière. Comment voulez-vous que les gens trouvent les manœuvres pour amener des bâtiments en B? C'est pas possible.
Alors, je vais essayer de résumer et de conclure un peu ces débats.
Je vais vous faire une proposition, Pierre.
Oui, je vous écoute, Philippe, allez-y.
Oui, ma proposition, elle est celle-ci. On entend Benoît Fauchard, avec raison, évoquer telle ou telle réforme fiscale nécessaire. On entend Christophe Demerson et Pierre Autus tenir un discours de même nature, mais en invoquant d'autres mesures. Michel Pelinck fait de même. Il est tout à fait. Et le plan bâtiment, de son côté, prend sa part de ces propositions, il est tout à fait certain que si on continue à jouer de façon dispersée, chacun dans son couloir, il n'y a aucun espoir d'obtenir les aides dont les propriétaires bailleurs ont besoin pour faire ces travaux de rénovation énergétique, et qu'il faut donc, il n'y a pas d'autre solution, il faut donc s'unir pour définir quelques propositions peu nombreuses, lisibles, qui, comme le dit Michel Pelin, correspondent bien aux différentes catégories de bailleurs, et ensemble les porter pour qu'elles soient dans la loi. Ça, c'est à notre portée. Nous sommes capables de le faire dès lors que l'on met de l'ordre dans les actions que nous conduisons et que nous déterminons ensemble des propositions communes. Donc je propose qu'on fasse cela, je propose que le plan bâtiment durable prenne l'initiative d'une réunion très prochaine pour ainsi arriver à une unité de propositions lisibles, et nous ferons ensemble le nécessaire pour qu'elle soit adoptée. Parce que l'objectif, et je dis bien que cet objectif qu'on partage, il faut l'annoncer haut et fort, il n'est pas question que dans cette affaire, on perde un logement locatif. Il n'est pas question de voir le parc locatif privé dont on a besoin dans son rôle social comme dans son rôle économique se restreindre à l'occasion de cette mise à niveau de la qualité du parc. Donc l'objectif, il est ambitieux, mais il faut qu'on s'accroche à lui. Nous devons maintenir le parc, et pour cela, il y a besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'aide bien ciblée. Déterminons-les ensemble et portons-les pour les faire aboutir.
Écoutez, le message est bien entendu, la perche tendue est saisie, en tout cas, je pense, pour l'UNPI et j'imagine aussi pour les autres acteurs que sont Solia, la FNIM et d'autres d'ailleurs, pour que nous puissions porter ensemble un certain nombre de propositions et que nous créions justement cet environnement favorable pour remplir ces objectifs. Et je le rappelle encore une fois, personne n'est contre la rénovation énergétique, personne n'est contre la amélioration du parc, la qualité du délogement et le confort des clients qui sont les locataires et les occupants de ces logements. Je pense qu'il y a là une opportunité qui nous permettrait de faire basculer les choses et de convaincre le politique. Alors, beaucoup de choses et beaucoup de clés sont dans les mains de Bercy, mais si je puis relayer l'appel que chacun d'entre vous avait fait auprès de la ministre Emmanuelle Wargon, c'est d'aller chercher ces arbitrages et de trouver les moyens à chacun de remplir les objectifs, encore une fois, très ambitieux qui ont été votés, pas définitivement encore. Il y a des améliorations encore certainement à voir au niveau de la loi énergie et résilience, mais aussi des aménagements fiscaux en loi de finances. Merci à tous pour la qualité de ces échanges, des propositions, même si une grande inquiétude a pu être relayée et résumée dans diverses interventions. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement avec d'autres acteurs et d'autres intervenants, notamment au Sénat. Merci à tous et à très bientôt.
25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.